Escale, un magazine hebdomadaire de la Radio des Nations Unies. Escale.
Bonjour à tous et à toutes, Florence Westgaard pour vous présenter cette édition d'Escale. Cette semaine, nous allons nous souvenir d'Anne Frank et ainsi mieux comprendre en quoi son histoire rappelle celle que vivent les réfugiés aujourd'hui. Nous rencontrons aussi Aurélie Kahn-Joshimek, dont les grands-parents sont des survivants de l'Holocauste.
Jeudi 19 novembre 1942. Rien n'est épargné. Vieillards, enfants, bébés, femmes enceintes, malades, tout. Tout est entraîné dans ce voyage vers la mort. Et tout cela pour la seule raison qu'ils sont juifs.
Le 263 Prinsengracht, une adresse incontournable à Amsterdam. Une maison visitée par des milliers de touristes chaque année. Difficile de réaliser qu'ici 8 juifs d'origine allemande se sont cachés pendant plus de 2 ans. Anne Frank, sa sœur Margot, ses parents ainsi qu'une autre famille. Pendant ces années de réclusion, Anne tient un journal. Alors âgée de 13 ans, elle raconte ses 25 mois passés dans la clandestinité. Pour marquer les 70 ans de la publication de son journal en 1947, un événement a récemment été organisé aux Nations Unies. Alison Smerl, la secrétaire générale adjointe à la communication mondiale, revient sur son histoire.
Nous célébrons aujourd'hui le 70e anniversaire de la publication d'un livre très spécial, Anne Frank, le journal d'une jeune fille, qui a été lu par des millions de personnes à travers le monde. Anne n'avait que 13 ans, le même âge que certains d'entre vous, quand elle a été obligée de se cacher dans un grenier secret à Amsterdam avec sa famille. La famille avait quitté sa maison en Allemagne pour se réfugier et chercher la sécurité aux Pays-Bas, qui tomba un peu plus tard sous l'occupation allemande. Pendant les 2 années où elle a vécu dans ce grenier, Anne a confié ses craintes et ses sentiments dans son journal intime. Lorsque la famille a été découverte par les autorités d'occupation, ses membres ont été déportés dans un camp de concentration. Malheureusement, Anne et sa sœur sont mortes en prison. Anne avait 15 ans. Pourtant, son journal a survécu et a été publié. Aujourd'hui, nous avons beaucoup à apprendre de sa bravoure et de l'héritage qu'elle nous a légué. Il nous exhorte à rester unis contre l'antisémitisme et contre toute forme de haine.
Nos nombreux amis juifs sont emmenés par groupes entiers. S'il se passe déjà des choses aussi affreuses en Hollande, qu'est-ce qui les attend dans les régions lointaines et barbares où on les envoie? Nous supposons que la plupart se font massacrer. La radio anglaise parle d'asphyxie par les gaz. C'est peut-être la méthode d'élimination la plus rapide.
Cet événement organisé par le Programme des Nations Unies pour la commémoration de l'Holocauste, le Centre Anne Frank pour le respect mutuel basé à New York et Facing History and Ourselves de New York avait pour objectif d'aider les élèves à mieux connaître la vie d'Anne Frank pendant l'Holocauste, la lutte de sa famille pour trouver refuge et l'histoire d'un journal inestimable pour les jeunes d'aujourd'hui. Annie, 13 ans, élève au Robert F. Wagner Middle School de New York, fait partie des nombreux collégiens présents à cette réunion. Il explique en quoi le journal d'Anne Frank l'a touché.
Ça m'a touché vraiment parce que maintenant dans ma vie, il y a des problèmes avec mon famille et tout ça. Et de voir que même avec tout ça, elle est dans un monde où c'est pas facile pour elle, c'est pas facile pour son famille, mais avec tout ça, elle n'arrête pas d'essayer de son mieux. Et là, avant ça, je pensais qu'il faut juste arrêter d'essayer, vraiment. Mais maintenant que j'ai regardé ça, ça me fait penser autrement. Et pour moi, c'est important parce que mon père était né en Syrie et maintenant il y a du guerre en Syrie. Et ça me vraiment fait de la peine pour les personnes qui sont dans la guerre maintenant. Et de voir que c'est meilleur d'essayer et d'espérer que tout va être bien, ça te met dans une bonne position.
Autre participant, Roméo, 13 ans, de l'école Friends Seminary de New York, convaincu qu'il faut éduquer pour ne pas oublier.
Si tu viens pas à des trucs comme ça, en fait, tu vas jamais vraiment savoir l'histoire. Après, si t'es pas bien éduqué, tu vas peut-être faire les mêmes choses qu'on a fait il y a quelques ans. Et après, on ne veut pas recommencer, et on ne veut pas faire ce qu'ils ont fait, donc c'est bien d'aller et être éduqué. Ben, moi, j'aimerais dire que c'était une jeune fille qui avait vraiment rien fait. Elle avait rien fait pour être morte. Donc, moi, je dis juste de never forget her et être bien éduquée et ne faire pas les choses qu'on a déjà fait.
Jeudi 11 mai 1944. Cher Kitty, tu sais depuis longtemps que mon souhait le plus cher est de devenir un jour journaliste et plus tard un écrivain célèbre. Réaliserai-je jamais ces idées ou cette folie de grandeur? L'avenir nous le dira. Après la guerre, je veux en tout cas publier un livre intitulé « L'annexe ». Reste à savoir si j'y arriverai, mais mon journal pourra servir.
70 ans après la publication du journal d'Anne Frank, Aurélie Kahn-Joshimek, petite fille de survivants de l'Holocauste, explique pourquoi ce journal est important pour les enfants et les prochaines générations.
Je pense que le journal d'Anne Frank, c'est un livre en fait qui est intemporel. C'est un outil pour les parents, pour les profs, et c'est quelque chose qui touche tout le monde, qui touche les enfants, qui touche les parents, et qui permet de faire un lien entre le passé, le présent et l'avenir. C'est-à-dire, je pense que sensibiliser les enfants à la Shoah, à l'Holocauste et au génocide, c'est indispensable à l'heure actuelle, avec tout ce qui se passe dans le monde. Et je pense que ce qu'elle a écrit, en fait, quand elle était cachée, c'est vraiment quelque chose qu'elle a écrit qui venait du cœur. Et ça, ben, ça, c'est quelque chose qui parle aux enfants, tout simplement.
Ce lien entre le passé, le présent et le futur, Aurélie Kahn-Joshimek l'a fait en lisant le journal d'Anne Frank à l'âge de 14 ans. Journal qui appartenait à sa mère, qui l'avait lu et qui lui a transmis. Au micro de Pascal Sim, Aurélie reconstitue l'histoire et le parcours de ses grands-parents.
Alors ça va être un petit peu difficile parce qu'ils ne parlaient pas beaucoup de leur passé, mais de ce que j'ai pu obtenir comme information. Donc mon grand-père en fait a été déporté avec sa famille à Auschwitz et il a survécu avec son père. Ensuite il est arrivé en France, à Paris, à la Croix-Rouge, où il a rencontré ma grand-mère qui elle-même a survécu le ghetto de Varsovie, où elle était avec sa mère et sa sœur. Et donc, toutes les trois sont restées ensemble et ont survécu.
Cette mémoire de l'Holocauste que vous avez héritée de vos grands-parents, comment est-ce que vous le voyez quand vous étiez enfant? Ça se traduisait comment? Est-ce que vos grands-parents en parlaient? Est-ce qu'ils en parlaient à vos parents qui ensuite vous en parlaient?
Non, c'était assez tabou, en fait, chez nous. Mes parents n'en parlaient pas, mes grands-parents encore moins, donc je dirais que ce que je sais de l'Holocauste, c'est ce que j'ai appris à l'école, en fait. Et après, j'ai essayé d'en savoir un petit peu plus sur le passé de mes grands-parents. J'ai réussi à obtenir quelques informations, mais c'est vrai que chez moi, on n'en parlait pas. Ce n'était pas un sujet dont on parlait.
Et lorsque vous leur posiez des questions, est-ce qu'ils étaient réactifs ou il y avait un silence? C'était une gêne?
En fait, on ne posait pas de questions. C'était... Je crois qu'en fait, on savait qu'il ne fallait pas poser de questions, je ne sais pas. C'est vrai que les petits-enfants, nous, ça nous intéressait, on voulait savoir, mais on n'osait pas poser de questions. Et pourtant, je veux dire, on voyait que mon grand-père avait un numéro tatoué sur son bras. Et c'est vrai que petit, on se demandait ce que c'était, mais on ne posait pas de questions. Voilà, c'était comme ça.
Et par rapport à vos parents, lorsque vous avez grandi, comment est-ce que vos parents vous ont-ils parlé de cette mémoire de l'Holocauste? Est-ce que c'était quelque chose que vos parents eux-mêmes ne parlaient pas?
Oui, mes parents n'en parlaient pas. Et moi, en fait, j'étais très intéressée. Donc déjà, j'ai lu le journal d'Anne Frank. Après, bon, bah, on en parlait à l'école, bien sûr. Quand j'ai eu 17 ans, j'étais à Auschwitz avec mon école. Pour moi, ça me troublait. J'avais besoin de comprendre, j'avais besoin de savoir. Parce que c'est difficile quand on est enfant, quand on est jeune. On ne comprend pas ce genre de choses, je veux dire. C'est tellement énorme, c'est tellement aberrant ce qui s'est passé que j'avais besoin de comprendre. Je voulais des réponses. Et c'est vrai que je savais que je ne pouvais pas en parler chez moi, en fait. Donc, je lisais beaucoup de choses, je lisais beaucoup de livres. J'essayais d'en parler plus, en fait, à l'école. J'essayais d'organiser des activités dans mon école aussi. Mais sinon, non, j'en parlais pas avec mes parents.
Vous évoquez donc ce problème de discuter de ce passé dans votre famille. Est-ce que ça a été beaucoup plus facile dans d'autres contextes, c'est-à-dire à l'école ou avec vos professeurs, avec vos camarades? Est-ce que vos camarades, par exemple, étaient beaucoup plus réceptifs à l'idée de savoir ce qui s'est passé?
Alors, c'était assez curieux parce que pas tous les enfants sont réceptifs à ce genre de choses, même les ados. Donc, quand on est au lycée, on pourrait s'attendre à ce que ce soit un sujet qui intéresse plus de jeunes. Mais bizarrement, moi, je n'avais pas cette impression-là. Je n'avais vraiment pas l'impression que ça intéressait beaucoup de jeunes. Et c'est vrai que, quelque part, je me sentais un peu isolée parce que je ne pouvais pas en parler avec eux. C'est non pas que ce soit tabou, mais c'était juste, c'était mon histoire personnelle en fait qui vraiment me pesait en fait en quelque sorte. Et je pense que c'était plus facile d'en parler avec les professeurs qui étaient peut-être plus ouverts ou je sais pas. Mais les élèves, j'avais pas cette impression-là qu'ils soient vraiment réceptifs à ça. Et puis bon, après, c'est vrai que quand on ne partage pas la même histoire, quelque part, forcément, on prend de la distance, on ne se sent pas touché. Et c'est vrai que moi, je me souviens, après avoir été à Auschwitz, ça me troublait. Je me disais, mais j'ai l'impression qu'ils s'en foutent, quoi. C'était ça, je me disais, mais ça n'a pas l'air de les intéresser et de les toucher. Et je comprends, c'était pas leur histoire personnelle, mais ça aurait dû les toucher. Parce que c'est quelque chose qui se reproduit. C'est quelque chose qui arrive encore à l'heure actuelle et il faut sensibiliser les jeunes à ce genre de à cette histoire parce que ben voilà c'est l'avenir les enfants c'est l'avenir donc c'est important et c'est aussi pour ça que le programme des Nations Unies est très très important à l'heure actuelle.
Alors le 9 novembre l'ONU a accueilli 500 lycéens dans ses enceintes pour justement observer la mémoire d'Anne Frank, les 70 ans de la publication du journal. Est-ce que vous pensez que les jeunes font un lien entre les épreuves qu'a pu endurer Anne Frank et celles qu'endurent actuellement aujourd'hui les jeunes réfugiés, les jeunes migrants, par exemple?
Oui, je pense que de ce que j'ai vu de l'événement, les jeunes font complètement le lien entre le journal d'Anne Frank et ce qui se passe avec les réfugiés à l'heure actuelle dans le monde. Et je pense qu'en fait, il faut faire confiance aux jeunes parce qu'ils ont cette sensibilité. Et c'est tant mieux, mais ils ont cette intelligence, cette sensibilité, ils comprennent très bien que c'est quelque chose qui se passe aujourd'hui, et c'est pas parce que c'était bien avant qu'ils naissent que ça s'est produit, que ça ne va pas se reproduire. Et donc, voilà, je pense que c'est un événement qui était très important, et j'ai vu que les jeunes se sentaient vraiment impliqués dans cet événement-là.
Alors vous dites que dans votre jeunesse, durant votre adolescence, vos camarades n'étaient pas si impliqués ou intéressés par cette partie de votre histoire, qui est aussi une partie de l'histoire mondiale. En tant que petit enfant de survivant de l'Holocauste, pourquoi pensez-vous qu'il soit si important pour l'ONU de sensibiliser des publics multiculturels dont l'Holocauste n'est pas forcément un héritage direct de leur histoire?
En fait, je pense que si je dois parler de mon expérience personnelle, je pense que ce qui a fait que les jeunes, quand j'étais à l'école, n'étaient pas intéressés, c'est parce que peut-être, je ne sais pas si c'est ça, mais peut-être que les profs n'avaient pas les bons outils. Et je veux dire, à l'époque, il n'y avait pas tous ces programmes qui existent maintenant avec l'ONU. Et je pense que ça aide énormément. Tout ce qu'ils font ici, c'est vraiment... ils ont des ressources qu'on n'avait pas avant. Des ressources pour les profs, pour aider justement les élèves à comprendre, pour les sensibiliser. Et ça, je pense que c'est indispensable.
Vous avez deux filles de 5 et 8 ans. Est-ce que vous pensez leur faire lire le journal d'Anne Frank très bientôt?
Je dirais que connaissant ma fille aînée qui a 8 ans... c'est quelque chose qui va l'intéresser, je pense, bientôt. Je ne lui donnerai pas dans l'immédiat, mais je sais que ça va l'intéresser. Je sais qu'elle va poser beaucoup de questions et je serai prête à répondre à ses questions. Et j'espère que j'arriverai à lui transmettre la mémoire qui m'a été transmise, en fait.
Tout a commencé par 8 personnes qui, dans la clandestinité, ont tenté durant 2 ans d'échapper à la mort. Écrit par une adolescente, le journal d'Anne Frank se terminait ainsi.
Je ne supporte pas longtemps qu'on fasse à tel point attention à moi. Je deviens d'abord hargneuse, puis triste, et finalement je me retourne le cœur. Je tourne le mauvais côté vers l'extérieur et le bon vers l'intérieur. Et ne cesse de chercher un moyen de devenir comme j'aimerais tant être et comme je pourrais être. Si personne d'autre ne vivait sur Terre.
Voilà, fin d'escale consacrée au 70e anniversaire de la publication du journal d'Anne Frank, un magazine conçu, produit et présenté par Florence Westgaard avec la collaboration de Pascal Sim et d'Agnès Pastorino. Je vous rappelle que vous pouvez écouter sur Internet et via les médias sociaux nos magazines hebdomadaires, mais aussi le journal quotidien d'ONU Info. Merci de votre fidélité et rendez-vous à la semaine prochaine.